franceinter.fr.
La revue de presse de Marion Lagardère. Bonjour Marion.
Bonjour Patricia, bonjour
dans
à tous.
Dans la presse ce matin, François Hollande sur un bateau.
Oui, ça n'est pas de sa faute, mais c'est ainsi. Il y a depuis 3 ans une métaphore filée sur le thème de la mer, la marine, l'eau en général, qui accompagne partout le sillage de François Hollande, de cette légende suivant laquelle il fait tomber la pluie aux récurrentes injonctions sur son cap qu'il maintient, qu'il doit changer ou juste infléchir. La photo de une du JDD ce matin rend donc hommage à cette tradition. Tout sourire, heureux, semble-t-il, à bord de l'Hermione. Quelques nuages à l'horizon, mais pas d'averse. Pas de mélanchonesque pédalo dans la tempête. Le président est immortalisé derrière la barre du navire qui paraît curieusement trop grande pour lui. Perspective perfide de la prise de vue. Et puis il y a ce petit détail intrigant. Quitte à jouer le jeu, on se dit que François Hollande aurait pu tenir de chaque côté les poignées en bois pour faire mine de guider le navire. Mais non, il ne tient pas la barre. On comprend mieux pourquoi en lisant la première phrase de définition de l'article « barre » entre parenthèses « bateau » sur Wikipédia, la barre d'un navire est utilisée pour changer de cap. C'est donc ça, comme quoi l'image c'est important.
Et justement, l'événement du jour, Marion, c'est cette interview que va donner le président à nos confrères de Canal+.
Et en lisant tous les articles sur cette intervention tant attendue de François Hollande, c'est surtout le champ lexical des conseillers élyséens qui est frappant. Le Parisien, Le Monde, le JDD, tous le disent, la nouvelle cible du président, ce sont les jeunes branchés, les bobos, la tranche 25-40 ans. Le chef d'État, écrit David Revaud-Allonne dans Le Monde, semble procéder désormais par segments afin d'atteindre des parts de marché dans l'opinion. Des cibles, des parts de marché certes, mais pour leur vendre quoi exactement? A priori, une prime pour encourager le travail des jeunes. Le JDD détaille, il s'agit d'un chèque mensuel de 100 à 200 euros versé aux moins de 25 ans qui travaillent, une mesure déjà inscrite dans le projet de loi que présentera mercredi François Rebsamen en Conseil des ministres. Le Monde ajoute cette phrase de François Hollande: s'il y avait une annonce particulièrement forte à faire, je ne serais pas allé sur Canal+. Le message est clair. Pour ceux qui en doutaient, il s'agira donc surtout d'un exercice de style, une énième opération pour corriger, infléchir, rectifier son image personnelle, explique Le Monde. Sauf qu'à lire la voix express du Parisien, c'est pas gagné. Le journal a posé la question à 5 électeurs. Les émissions politiques influencent-elles votre vote? Réponse de Monique, de Langres, en Haute-Marne. Je sais que tout ça, c'est un peu du cinéma, bien rodé et loin de la réalité, explique-t-elle, avant d'ajouter que le général de Gaulle était un homme exceptionnel. Ah oui, Monique, 72 ans, retraitée, pas dans la cible bobo jeune parisien, Monique. Qui d'autre? Aliénor, 38 ans, habitante à Paris, paf, le profil visé donc. Et que dit-elle Aliénor? La qualité du débat politique, c'est hyper dégradé. On nous sert une soupe sans produire un débat pertinent. On vient à la télé pour faire de la pure communication qui ne sert à rien. Un dernier point de vue, Virginie, 32 ans, gestionnaire financier à Toulouse. Les débats manquent de fond, on se renvoie la balle sans apporter de solution.
Quoi d'autre dans la presse, Marion?
Cette question, priorité à quoi? À l'image, à l'emploi, à la croissance? Rien de tout cela, priorité à l'avenir de la planète, répond Alan Rusbridger, le directeur du journal britannique Guardian. Interview à lire dans Le Monde, datée d'aujourd'hui. Il n'y a pas de sujet plus sérieux que le climat, dit-il. Lui qui a engagé son journal dans le programme de l'ONG 350.org, programme appelé Keep it in the ground, gardez-le sous terre. Le, c'est le pétrole, les énergies fossiles en général. Début avril, le Guardian Media Group, qui dispose de plus d'1 milliard d'euros d'actifs, a annoncé qu'il commençait à se débarrasser de ses participations dans l'industrie des combustibles fossiles. Alan Rusbridger explique: le changement climatique est la plus grande story de notre époque, mais elle n'a fait que très rarement la une de notre journal. Il ajoute que le conseiller financier du Guardian est formel: les énergies fossiles sont devenues de mauvais investissements qui sous-performent. C'est qu'il faut performer quand même. Le directeur du journal nuance: sur les 10 dernières années, l'industrie de la presse est devenue peureuse, dit-il. On regarde en permanence nos chiffres de vente, nos nombres de lecteurs, d'abonnés. Mais si vous voulez faire du journalisme, il faut garder l'intérêt général comme moteur. Et je n'en vois pas de plus grand que d'aider à la prise de conscience sur le dérèglement climatique. Dans sa rédaction, les journalistes suivent, même si l'initiative a très vite dévoilé ses propres limites. Renoncer à l'utilisation des combustibles fossiles, certes, mais pour les remplacer par quoi? Notre discussion s'est focalisée sur le nucléaire, conclut-il. Mais j'ai demandé à ce qu'on ne tranche pas ce débat.
D'autres d'autant plus qu'il est de plus en plus difficile de plaider pour le nucléaire.
Et oui, vous l'avez entendu cette semaine, la cuve de l'EPR de Flamanville est défectueuse. Plus que cela, elle n'est, semble-t-il, pas réparable. Un tel revers technologique, explique l'éditorial du Monde, qui révélerait l'incapacité d'Areva à forger une cuve répondant à toutes les normes de sécurité, aggraverait l'autre point faible de l'EPR, son coût exorbitant. Changer la cuve, ajoute le JDD, coûterait des centaines de millions d'euros, sans compter la mise en service, repoussée déjà de 2016 à 2017 et désormais à 2018 au plus tôt. Alors l'EPR, vitrine de l'excellence française du nucléaire, est-il mort, interroge le journal. La version initiale conçue il y a 20 ans, oui, mais EDF et Areva travaillent depuis 2 ans à une nouvelle version moins chère, moins complexe, plus facile à exporter et à construire. Plus sûr, ça n'est pas précisé. Mais si le nucléaire est cerné par les fissures, les milliards d'euros manquants et les drones aussi accessoirement, où donc trouver l'énergie? L'interrogation des journalistes du Guardian, enfouie par leur directeur de journal, est pourtant au cœur du débat. En tout cas, ça ne passera pas par le gaz de schiste. C'est ce que répondent au groupe Total des centaines de militants et d'habitants de la ville de Dybvad. C'est au nord du Danemark. Le site reporter.net raconte les opérations d'occupation des zones où le géant français prévoyait de commencer ses forages en avril. En photo, une banderole tenue par la population et gardée par un policier. Gaz de schiste, non merci. Où trouver l'énergie donc? Pas dans le charbon non plus. Toujours sur le site reporter.net, le journaliste Nicolas de la Casinière nous apprend que 3 grandes banques françaises ont décidé de se retirer d'un méga projet charbonnier en Australie. Sous la pression, dit-il, BNP Paribas, Société Générale et le Crédit Agricole ont plié pour préserver leur image. Tiens, l'image, on y revient. Bref, pas de charbon, pas de gaz de schiste, pas de nucléaire, pas de pétrole. Quoi donc alors? Les énergies renouvelables, solaire et éolien en tête. C'est la conclusion du sommet annuel de Bloomberg sur l'avenir de l'énergie. Le site internet slate.fr rapporte que le prix de l'électricité produite à partir du vent et du soleil continue à baisser, qu'il est même inférieur dans plusieurs régions du monde à celui provenant de centrales thermiques classiques. L'agence Bloomberg affirme: la question n'est plus de savoir si la transition vers les énergies plus propres va se faire dans le monde, mais quand elle se fera. Bloomberg qui donne une date, 2050, année où le solaire doit devenir principale source de production d'électricité.
Enfin Marion, image plus énergie égale retour à la politique.
Oui, si l'image de l'eau et de la pluie colle à François Hollande, Nicolas Sarkozy lui trouvera dans le JDD de quoi entretenir son image de candidat prétendant ex-président énergique. Il fait la course en tête pour la primaire à l'UMP, explique Dominique de Montvallon, mais il n'a pas gagné la partie. Sondage de l'IFOP en page 7. 42% d'intention de vote pour l'ancien chef de l'État, contre 33% pour Alain Juppé et 12% pour Bruno Le Maire. Sondage qui est un événement politique d'après le JDD, mais novembre 2016 est encore loin, précise le journal, pas une contradiction près, et qui rappelle les 5% de François Hollande un an avant la primaire socialiste. Novembre 2016 donc, c'est dans 18 mois et 2017 dans 2 ans. Le temps de voir passer des kilotonnes de sondages, d'images et parallèlement, mais très certainement, de nouveaux reports de l'EPR à Flamanville.
C'était la revue de presse de Marion Lagardère.